Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
On parle très souvent du métier de dev, mais finalement, assez peu, du métier d'ops. Le DevOps vise à rapprocher les équipes de dev des ops, mais aussi à partager la culture. Et c'est ce qu'on va faire dans cet épisode, en te parlant d'un des aspects du métier d'ops, la production.
Bienvenue sur Radio DevOps, la balado-diffusion des compagnons du DevOps. Si c'est la première fois que tu nous écoutes, abonne-toi pour ne pas rater les futurs épisodes. C'est parti!
Bonjour à toi, cher compagnon, et bienvenue dans cet épisode de podcast dédié à la production. On va démystifier la prod et l'exploitation, mais on va aussi parler d'astreinte. Ces termes que tu as probablement déjà dû entendre parler, mais si tu ne sais pas ce que c'est, rassure-toi, on va en parler tous les quatre. Tu l'auras compris, on va tenter de répondre avec nos expériences respectives aux questions « C'est quoi gérer une prod ?» et « Comment est-ce qu'on gère les astreintes ?» Mais avant, justement, l'objet de ce podcast va me permettre de te rappeler que tu peux améliorer tes soft skills et te forger un état d'esprit DevOps avec ma formation, la formation DevOps Mindset, et c'est le premier lien en description. Et crois-moi, tu auras besoin d'un état d'esprit DevOps pour affronter la production. Alors, pour en parler avec moi, j'ai Erwan. Bonsoir Erwan.
Bonsoir.
Bonsoir. J'ai aussi Mathieu. Bonsoir Mathieu.
Bonsoir.
Et enfin, et non des moindres, René.
C'est gentil. Bonsoir.
Ah oui, oui, oui. Je rappelle que tu es notre papa à tous, René. Du coup.
Ah, ouais, je sais pas comment je le reçois le prendre, en fait.
Tu prends comme tu veux. J'ai presque le même âge que toi, à quelques années près, on va dire. J'ai peut-être plus de barbe blanche que toi, c'est sûr. D'ailleurs, si tu nous vois pas, que tu nous écoutes sur podcast, tu peux aller sur YouTube, tu nous verras. Bon, allez, on va commencer, on va rentrer un petit peu dans le vif du sujet pour que notre cher auditeur permette de se faire une idée un petit peu de qui on est et de pourquoi est-ce qu'on parle de production ou d'exploitation ou d'astreinte. On va peut-être dire en fait si on a déjà fait de la prod et si on a déjà fait des astreintes, combien de temps on en a fait. Alors, je vais commencer pour vous donner l'exemple un petit peu, et puis après je vous laisserai la parole à tous les trois pour nous dire un petit peu c'est quoi votre expérience de la prod et de l'astreinte. Alors, moi j'ai fait de la prod à plein temps pendant 9 ans chez Casino Monoprix, donc ça a duré longtemps, et la CPAM, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie, pendant 1 an. Quand je dis 9 ans, c'est 8 ans chez Casino et 1 an chez la CPAM, et grosso modo depuis 2015, je fais de la production légère pour mes clients. Parce que j'automatise, je fais de la phrase code et du coup il n'y a pas d'astreinte, c'est des trucs sans astreinte. Quand j'étais chez Casino et la CPM, je faisais de l'astreinte. J'en ai fait pendant 5 ans de l'astreinte et justement on avait une fréquence d'astreinte chez Monoprix qui était un peu énorme, mais on en parlera. C'est nous on faisait une astreinte par mois. Et je fais un petit peu d'exploit pour Froggit aujourd'hui, il n'y a pas d'astreinte. Allez, qui veut prendre la parole après moi?
Bah, je peux prendre la suite. Donc moi aussi, j'ai fait pas mal d'astreintes donc sur les périmètres ops, serveur et stockage quand j'étais chez Hewlett-Packard. Comme tu l'as mentionné au début, ben voilà, je commence à être vieux, donc ça commence à remonter à pas mal de temps. Je pense que voilà, ça, j'ai dû commencer il y a une vingtaine d'années, j'ai dû en faire, je pense, entre 10 et 15 ans, je sais pas exactement. Au début, avec des rythmes quand même un peu plus soutenus, et sur la fin, voilà, il y avait moins besoin, donc où j'ai changé un petit peu de rôle, on va dire, du coup, je participais moins aux astreintes et pour ne plus en faire récemment, quelques années. Et voilà un petit peu l'expérience autour de l'astreinte.
Et de la prod.
Moi, je vais parler pour mon cas. Donc, moi, j'ai tout, quasiment toujours travaillé dans des contextes un peu SaaS, etc. Donc, que ce soit B2B ou B2C. Donc, du coup, avec des SLA à respecter, etc. Donc, avec des astreintes. Donc, ça fait un peu plus de 10 ans. Et en gros, la plus grosse prod que j'ai eu à gérer, donc les plus grosses astreintes, c'était quand je travaillais chez Deezer, et que passer un nouvel an chez Deezer quand on est d'astreinte, je peux vous assurer qu'en tout cas à mon époque c'était costaud, fallait être sur le qui-vive, et donc voilà, aujourd'hui officiellement j'en fais plus trop, mais j'en fais quand même malgré tout. Et toi Mathieu?
Alors je vais conclure, bah moi j'ai fait de la prod toute ma carrière, pas toujours d'astreinte, mais gérer de la production on va dire le jour. J'ai fait de l'astreinte par contre pendant longtemps chez Exoscale, donc qui est un cloud provider européen. Donc là aussi de l'astreinte sur une grosse infrastructure pendant plusieurs années. Et aujourd'hui j'ai changé d'entreprise récemment et je suis en train de... Je vais bientôt commencer l'astreinte, voilà, ça, je vais bientôt commencer mes shifts et je pense que ça sera déjà le cas au moment où le podcast sortira.
Eh ben dis donc, j'ai envie de dire déjà, justement on en parlera du fait de prendre une astreinte quand on rentre dans un nouveau job. Du coup, c'est quoi une production et c'est quoi une astreinte pour les personnes qui nous connaissent pas? Erwan, est-ce que tu peux nous définir la prod, s'il te plaît?
Moi, ce que je mettrais dans prod, c'est tout ce qui touche le business d'un point de vue direct, donc tout ce qui est lié à ce qui rapporte de l'argent directement à la boîte. Donc typiquement, je citais Deezer, c'est tout ce qui est lié au fait que les gens puissent écouter du son, quoi. C'est-à-dire que c'est, entre guillemets, les parties les plus cruciales de la boîte enfin il y a plein de choses qui font partie de la prod étendue, mais la prod au sens critique, c'est tout ce qui impacte le business directement. Donc par exemple, en termes de priorité chez Deezer, c'est plus important que les gens puissent écouter des sons que les labels puissent se déposer les sons à encoder. Donc voilà. Et donc du coup, pour faire tourner tout ce qui touche au business, on retrouve un petit peu des différents sujets qu'on a évoqués dans les différents podcasts, qui sont les mises en prod, la CI/CD, donc l'automatisation, l'observabilité, etc. Puisque c'est grâce à tous ces outils-là qu'on va pouvoir gérer cette prod et donc avoir des outils pour gérer des astreintes aussi. Je ne sais pas si vous voulez rajouter des choses à cette petite définition.
Moi, je vais compléter justement ma vision. Pour moi, l'exploitation, en fait, c'est vraiment, comme tu l'as dit, c'est tout ce qui touche au business. Du coup, c'est ça dépend des environnements, parce qu'on sait qu'il y a plusieurs environnements, mais souvent l'exploitation se borne aux environnements de production et de pré-production, mais tout ce qui est environnement pour les devs et tout, c'est pas l'exploitation qui gère, c'est les devs peut-être, avec l'aide des ops. Moi, je vais parler de notre expérience de casino. C'est l'une des plus grosses prods que j'ai connues. Du coup, nous, on faisait de l'exploitation. Et il y avait plusieurs services de prod. Parce que le casino, c'est assez énorme. On était 600 à gérer l'informatique. Et moi, j'étais dans un service qui gérait que les applications. Donc, ça veut dire que notre métier, c'était de prendre les livrables qui étaient fournis par les développeurs et de les installer sur les serveurs qui étaient fournis par les administrateurs système, les ops. Nous, on était des ops, mais pas administrateurs système. On était des exploitants, des administrateurs d'applications. C'est-à-dire qu'on avait des connaissances Unix, mais c'est pas nous qui gérions les systèmes. C'est pas nous qui gérions les middleware, par exemple, parce qu'il y avait une autre équipe qui gérait les middleware, par exemple les serveurs d'applications comme WebSphere ou d'autres. Nous, on faisait vraiment la mise en production, l'installation, le déploiement, puisque on avait très peu d'automatisation, en tout cas avant que j'arrive, et on supervisait aussi que les traitements, parce que chez Casino, comme tout un tas d'entreprises de ce type-là dans la grande distribution, il y a des chaînes de traitement qui passent la nuit Par exemple, pour que les magasins et supermarchés soient alimentés, il faut qu'il y ait des commandes qui soient passées, il faut qu'il y ait les approvisionnements qui partent, et il faut que la mise en rayon se fasse, que les prix descendent dans les caisses, etc. Donc tout ça, c'est des trains d'ordonnancement qu'on devait suivre, et on devait suivre qu'il n'y ait pas de problème, parce que ça touchait plein de choses. Pour moi, c'est ça une prod, c'est gérer en fait toute l'infrastructure et les applicatifs qui sont autour de l'aspect business aussi, qui fondent le cœur de métier. Mathieu, tu veux rajouter un petit truc ?
Pas vraiment, c'est vraiment des bonnes définitions, je pense. Je suis assez d'accord avec ça. On pourra en reparler après, mais c'est vrai que moi, aujourd'hui, sur qui, finalement, gérer une prod, qui gère la prod, pour moi, c'est plus que les ops, mais on pourra en parler juste après. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus de gens qui interagissent sur la prod. Bien sûr, pas de la même manière, mais les développeurs travaillent également beaucoup aujourd'hui. Enfin, dans mon cas, du moins, dans mes expériences, ont toujours travaillé de manière assez autonome sur la prod, et ça se ressent aussi sur la sprint.
Ouais, je pense que ça dépend aussi des entreprises dans lesquelles tu es, parce que je prends l'exemple de Casino, parce qu'en plus c'est devenu un de mes clients maintenant. Je sais comment ça se passe, et en fait, en fonction de la maturité de l'entreprise, si elle est vraiment allée vers le mouvement DevOps ou pas, en effet, les devs, ils peuvent gérer la prod avec les ops, avec les administrateurs système ou les administrateurs cloud. Mais historiquement, c'est en effet bien les ops qui gèrent les prods et pas les développeurs. Souvent, quand on dit les développeurs, ils n'ont pas la main sur les environnements de prod, c'est vrai. Et même encore quand on est dans un concept DevOps, parfois, ils n'ont pas la main sur les environnements de prod parce qu'en fait, personne n'a la main sur les environnements de prod.
Après, t'as raison. Historiquement, c'est plutôt les ops. Après, aujourd'hui, ce qu'on voit aussi, c'est que la complexité applicative, je pense, elle a vachement augmenté. Du coup, ça fait sens que d'avoir aussi des développeurs, parce que c'est devenu un truc super complexe, et c'est eux qui savent finalement comment l'application fonctionne.
Tout à fait. Mais même, je sais pas vous, mais même moi, en tant que gestionnaire d'application, on est en communication presque constante avec les développeurs, parce que dès qu'on avait un problème, on pouvait juste voir les symptômes, essayer de trouver où était le souci, mais finalement, on fallait discuter avec les développeurs pour comprendre quel était le problème.
Après, ça dépend le périmètre. Toi, tu avais un périmètre plutôt applicatif, donc forcément, tu étais plus proche des applicatifs. Moi, j'avais plutôt un périmètre plutôt infrastructure. Donc en fait, quand une baie de disque, elle s'est foutue en vrac, les développeurs, j'en avais pas spécialement besoin, en fait, parce que voilà, il fallait ressortir les backups, remonter la baie, restaurer les données, donc on était autonome à ce niveau-là.
Oui, tu as parfaitement raison de le souligner. En effet, j'étais plus proche de l'application que du système, et en effet, les administrateurs système, les administrateurs storage ou même les administrateurs réseau avaient moins de discussions avec les développeurs. Ils avaient des discussions avec nous, en fait. Nous, on était... En fait, on faisait la coordination entre toutes ces équipes. On gérait les incidents et tout. Vas-y, Mathieu.
Ouais, bah en fait, ça va presque être en lien avec la partie suivante, finalement, sur qui est l'astreinte, etc. Mais pour moi, en fait... C'est vrai que c'est vraiment une question de maturité, mais une entreprise où les ops ont mis de l'outillage et ont construit une plateforme pour les devs, pour les rendre autonomes sur la prod, et ben ces devs-là peuvent également être d'astreinte sur la production. C'est ce que j'ai connu moi avec Zoscale, hein, pendant des années. Moi, j'étais côté dev, même si c'était très lié à l'infrastructure, mais il y avait des développeurs beaucoup moins à l'aise que moi, on va dire, sur les aspects infra, et on était tous d'astreinte. Donc, et surtout, finalement, aujourd'hui... Je crois que c'est René qui l'a mentionné, c'est vrai que l'applicatif devient complexe, donc là je parle vraiment de gestion d'application. Et moi aujourd'hui, un problème de performance sur une application par exemple, ou un bug dans une application, c'est moi en tant qu'op, c'est pas moi qui la maintiens. Et c'est moi qui reçois l'alerte, je vais juste être un passe-plat en fait. C'est-à-dire je reçois une alerte et je vais la renvoyer à l'équipe en dev en disant « Ah, il y a un problème ». En fait, je vais tout simplement leur envoyer directement l'alerte à eux. Et c'est comme ça que je pense que les équipes montent en autonomie et peu à peu, voilà, prennent possession de la prod jusqu'à être d'astreinte 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, en parallèle des développeurs.
Juste.
Désolé.
Je t'arrête un moment parce que t'es bien parti là et que je pense qu'on va parler de l'astreinte parce que là t'as balancé plein de mots qu'on n'a pas expliqué. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer, vu que c'est toi qui lance le sujet, ce qu'est une astreinte, puis après avoir défini l'astreinte, ce qu'est une alerte? Rappelez ce que c'est une alerte, puisqu'on a déjà fait un épisode sur la supervie.
D'accord. Alors, l'astreinte, c'est quoi? Ça va être la désignation d'une ou des deux personnes qui vont être en charge de, qu'on va savoir, enfin, l'entreprise va savoir qu'elles sont disponibles pour recevoir des alertes. Donc, des alertes, c'est quoi? C'est un problème. Un problème sur l'infrastructure, un problème sur une application. Par exemple, vous administrez un site web, bah, votre site web ne répond plus. Vous allez recevoir une alerte, va être envoyée par votre système de monitoring à la personne d'astreinte, donc à la personne dont, qui est d'astreinte ce jour-là, et cette personne va recevoir l'alerte pour gérer, donc va devoir réagir et donc régler le problème. Ça peut être une application qui tombe, ça peut être des problèmes de performance, des dégradations de performance, etc., etc., des problèmes matériels, des problèmes logiciels. Il y a toutes sortes de problèmes sur une infrastructure, mais voilà, finalement la définition d'une alerte, c'est ça, c'est je détecte un problème. Et j'envoie un message, j'envoie une alerte à la personne qui est d'astreinte, donc dans le calendrier d'astreinte qui est identifié comme étant d'astreinte à ce moment-là. Et cette personne doit résoudre le problème parce que aujourd'hui, voilà, par exemple, tout le monde, on utilise beaucoup Twitter, par exemple, et c'est inconcevable que Twitter soit down. Donc il y a des gens qui vont être là toute la journée, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, d'astreinte pour recevoir des alertes et corriger les problèmes parce qu'aujourd'hui, ce qui est attendu des clients, notamment sur Internet, dans les produits SaaS ou autres, hein, sur les applications web, c'est une disponibilité très, 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 très élevée et on ne peut pas se permettre d'avoir un site web qui ne fonctionne pas, par exemple. J'espère que c'est clair.
Moi, je rajouterais juste que l'astreinte, c'est la réponse aux SLA, en fait, sur lesquels les services s'engagent à être disponibles. Donc, SLA, c'est Service Level Agreement, un truc comme ça. Et du coup, c'est en gros, quand vous êtes chez un provider ou un service, il s'engage à être up X temps, X% du temps, on parle souvent des 9-5, donc de 99,9999% du temps. Et donc, du coup, bah, pour pouvoir assurer ce service, il faut qu'il y ait des gens de dispo pour relancer ou faire quelque chose s'il y a un problème.
Je pense que c'est assez clair, merci. Je crois que tu as défini aussi l'alerte en même temps.
Je l'avais fait, oui. C'est finalement l'alerte, c'est oui, comme c'est, on se base sur une métrique ou sur le retour d'un système de monitoring pour envoyer une alerte, donc un message à généralement la personne d'astreinte ou à un système d'alerte, etc. Pour en reparler aussi.
Ouais. Alors du coup, au client qui hurle.
Parfois, le système de monitoring, c'est le client.
Oui, c'est vrai, parce que le client, il peut voir des choses que le système de supervision n'a pas encore vues. Ça peut arriver, en effet. Du coup, la production ou l'astreinte, c'est pour qui? Est-ce que c'est pour tout le monde? Est-ce que c'est pour une population particulière? Puisqu'on a parlé des ops, justement, Mathieu voulait nous dire un petit mot là-dessus.
Et j'en avais parlé juste avant, traditionnellement, vous l'avez dit, c'est les ops, mais c'est en train de changer. Aujourd'hui, les devs sont de plus en plus autonomes sur la prod, gèrent leur déploiement en prod, gèrent leurs applications, gèrent leurs métriques, gèrent leurs alertes. C'est-à-dire que c'est le dev qui dit, bah, moi, mon application, quand un temps d'appel, par exemple, sur une requête HTTP commence à être élevé, par exemple, une seconde, c'est lui qui va mettre sa limite. Je veux être alerté parce que mon application a un problème. Donc, les développeurs commencent à s'approprier toute cette culture de la production grâce à des abstractions mises en place par les ops et sont de plus en plus dans les entreprises d'astreinte également. C'est encore peu commun d'avoir des devs d'astreinte, mais c'est des choses qui arrivent. Moi, c'est la deuxième entreprise où je suis où c'est le cas, et c'est très intéressant. Mais voilà, traditionnellement, c'est généralement les ops.
Ouais, je vais préciser aussi, quand on était chez Monoprix, nous, on avait tout le temps une astreinte de développement sur les applications ultra critiques. Par contre, je parle de l'astreinte là, les premiers qui étaient appelés, c'était nous. Puisqu'on était en fronto, si on devait faire une première analyse du problème, et si on estimait que c'était un problème infrastructure, on appelait nos potes de l'infrastructure. Si on estimait que c'était un problème de base de données, on appelait nos potes DBA qui étaient d'astreinte. Mais par contre, si on avait un vrai problème applicatif, là, on pouvait faire appel au support qu'on appelait de niveau 3 ou 4. On parlera des divers niveaux de support plus tard, qui pouvait être justement le développeur ou une personne de l'équipe de développement. Nous, on avait quand même des développeurs sur les applications ultra critiques, parce que vous comprenez bien que si vous voulez avoir des légumes frais dans vos supermarchés, il faut que les commandes elles se passent tous les jours. Donc il faut pas que les commandes elles se plantent, parce que s'il y a une commande qui se plante une journée, enfin je parle du batch de commande qui peut durer plusieurs heures, et il y a tout un tas de supermarchés qui reçoivent pas leur supermarché dans 3 jours, enfin leur supermarché, leurs produits frais dans 3 jours par exemple. Des trucs comme ça, ça peut vite embrayer sur des pénuries. Vas-y. Pardon.
Non, je disais, il y a peut-être quelque chose qu'on n'a pas mentionné aussi, c'est la couverture qui est attendue, parce que souvent, une production, c'est du 24/7. Et donc, du coup, les gens qui sont d'astreinte sont amenés à travailler hors des heures ouvrées, en fait. Voilà, c'est peut-être quelque chose qui n'était pas... Enfin, ça me paraît assez implicite, mais il faut quand même peut-être le rappeler pour les gens qui n'en ont jamais fait. Et donc, ça a un certain nombre de contraintes, donc on pourra évoquer par la suite.
Ouais, je pense qu'on parlera de l'organisation de l'astreinte juste après, justement. Mais tu fais bien de le préciser, c'est pas pendant les heures de bureau, l'astreinte. Alors moi, je voulais aborder un petit point avant de repasser la parole à Mathieu juste après. On peut se poser la question, en tout cas, toi, tu peux te poser la question si t'es junior, junior dans ton entreprise ou junior tout court, est-ce que tu vas faire des astreintes tout de suite? Alors, moi, j'ai rarement vu des très juniors faire des astreintes. Et j'ai peu vu des personnes qui viennent de rentrer dans les entreprises faire des astreintes, parce que il faut quand même une connaissance du métier, une connaissance de ce que fait la société et une connaissance de l'infrastructure ou du système d'information avant de commencer à pouvoir faire des astreintes, parce que là je parle de l'astreinte pure, mais quand on fait des astreintes, on est seul finalement et il n'y a pas de collègues avec nous parce qu'on est le seul réveillé. Du coup, si t'es junior, ne t'inquiète pas, tu vas pas en faire tout de suite, mais par contre, au bout de 2-3 ans, tu risques d'en faire. Et justement, Mathieu va nous, vu que tu viens de changer de boîte et que tu nous as dit que t'allais faire des astreintes, moi je suis assez surpris parce que t'as changé de boîte il y a peu de temps finalement. Est-ce que tu peux nous dire comment ça se fait que tu comptes faire des astreintes aussi vite?
Alors, pour moi, c'est pas forcément un problème. Alors déjà, j'ai pas aujourd'hui un profil junior, c'est-à-dire j'arrive sur des infrastructures. Je connais déjà un certain nombre de briques et j'ai fait longtemps de l'astreinte, donc j'ai beaucoup moins de stress que quelqu'un qui va commencer. Et en effet, je suis arrivé il y a un mois dans l'entreprise, date d'enregistrement du podcast, ça fera plus quand vous l'écouterez. Là, on commence à parler d'astreinte. Je le savais dès la signature de mon contrat, c'est un point très important, que dès la signature du contrat, ça soit clair qu'il y aura de l'astreinte dans un travail, on pourra en reparler, mais il y a un aspect contractuel très important sur l'astreinte. On commence à m'aborder sur l'astreinte, et généralement ça se fait comment? Ça se fait comme ça dans beaucoup d'entreprises, et dans mon entreprise précédente aussi c'était comme ça. C'est déjà vérifier que la personne en effet maîtrise l'essentiel de l'infrastructure. Nous on a vraiment un document qui va détailler un certain nombre de procédures, un certain nombre de technologies, et tant que j'aurai pas coché toutes les cases entre guillemets, je ne serai pas d'astreinte bien sûr. Et également sur le fait d'être d'astreinte déjà en journée. Répondre aux incidents en journée permet de gagner en confiance, d'apprendre à réagir, d'apprendre le système, voilà comment il fonctionne, à prendre en main la plateforme de monitoring, réagir à des incidents que peut-être on reverra, c'est-à-dire ou des variations de cet incident, on va dire. Donc souvent ça commence comme ça. Ça va être monter en compétence sur des choses, de manière classique avec le temps, mais également commencer à recevoir des alertes en journée. Pour voir c'est quoi l'astreinte dans l'entreprise, voir le type d'alerte, et comme je vous disais, prendre au moins l'outillage, parce que l'astreinte c'est aussi des outils, on va dire, de gestion d'alerte, on va dire, pour les acquitter, pour les fermer, pour configurer vos notifications sur votre téléphone, etc., ou votre autre appareil d'astreinte. Pour moi ça commence comme ça, du moins c'est déjà faire prendre de l'astreinte et régler les incidents au jour le jour, et quand on est à l'aise, on bascule sur l'astreinte 24/7.
Je pense que c'est... Ouais, vas-y, René.
Oui, pardon, je voulais pas t'interrompre. Ce que je voulais dire, c'est que c'est souvent quand même le chemin, c'est de passer par les équipes un peu de support au début pour, effectivement, comme le disait Mathieu, voir un petit peu qu'est-ce qui se passe, comprendre un peu le contexte, etc. Et après, oui, on peut basculer. Après, c'est jamais... Voilà, la première astreinte est toujours... Ça fait toujours un petit quelque chose, quand même. Mais voilà, c'est... Enfin, il ne faut pas que ce soit imposé, je pense. Enfin, voilà, faut que la personne se sente suffisamment confiante et à l'aise pour pouvoir y aller, quoi.
Oui, et puis je pense que, a priori, vous ne serez pas surpris si vous faites de l'astreinte, parce que comme le disait Mathieu, c'était clair dès le départ, que vous soyez embauché ou que vous soyez prestataire pour aller sur une mission, il y a de fortes chances pour qu'on vous dise, avant la mission, il y aura des astreintes. À vous ou pas d'accepter. On sait que quand c'est une mission et qu'on est prestataire, c'est un peu compliqué, mais ça, c'est un autre sujet qu'on va aborder à la fin, je pense, dans les problèmes. Justement, c'est une transition parfaite pour parler de comment se passe la prod et la gestion des astreintes. Et on va parler un petit peu d'organisation. Et comme vous avez commencé à parler de support, eh ben, je vais faire un petit rappel de... Alors, je sais pas si vous avez vu ça souvent, mais moi, dans la plupart des entreprises où je suis passé, et y compris chez nous, on applique le support en 4 niveaux. Donc, je vais juste faire un bref rappel. Support en 4 niveaux, il y a 4 niveaux de support. Et à chaque fois, on fait une escalade au niveau supérieur. Donc, le premier niveau, c'est le support très bas niveau, plutôt technique. Typiquement, chez Casino, c'est une équipe dédiée qui s'occupait de ça, qu'on appelait le pupitre. Parce que c'était des pupitreurs qui avaient tous leurs écrans d'alerte devant eux. Et en fonction des alertes qu'ils avaient, eh ben, ils regardaient dans une base de connaissances ce qu'ils devaient faire. Ça allait pas très loin. S'ils arrivaient à résoudre le problème, c'était très bien. Et s'ils n'arrivaient pas à résoudre le problème, pouf, ils faisaient appel au support niveau 2. C'est là où nous, on intervenait. Et ils les appelaient. Donc, en journée, ils appelaient le bureau. Et en dehors des heures de bureau, ils appelaient l'astreinte. Donc, c'est un téléphone qui sonne en pleine nuit, pendant le week-end, pendant que vous étiez en train de jouer à un jeu de rôle. Ça m'est arrivé je ne sais combien de fois. Et ben là, c'est nous qui gérons. Le support niveau 2 ou 3, parce que parfois, le support à 4 niveaux, le support niveau 2 et 3 sont joints, c'est le support un peu plus technique. Il va faire les analyses et puis il va envoyer au troisième niveau. Le troisième niveau, il a une connaissance un peu plus métier. Et enfin, le quatrième niveau, c'est en dernier ressort, c'est les experts techniques, les experts dev, etc. Chez nous, c'était justement les équipes de développement. Est-ce que vous avez vu ce genre de support dans vos boîtes ?
Ah oui, clairement. Après, pas forcément avec ce même, pas jusqu'à 4 niveaux, mais je crois que le 3 niveaux est quand même très 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 répandu. Et ça répond un petit peu aussi à qui peut faire des astreintes. Bah, en fait, ça dépend du niveau dans lequel tu es, parce que suivant, t'as pas la même obligation de résultat suivant quand tu es pingé et par qui. Donc du coup, effectivement, ce que tu décris, c'est quand même assez courant dans les. Parce que si personne a la solution, bah il faut bien pinguer quelqu'un qui a une solution. Donc il faut remonter à quelqu'un qui est de plus capé ou quoi. Même si officiellement il est peut-être pas d'astreinte.
Pardon René, je te laisse y aller.
Ouais non, ce que je voulais juste ajouter que parfois il y a aussi un manager d'astreinte. C'est-à-dire quand les équipes sont entre guillemets scotchées, ce qui peut arriver, ou pour aider à la décision, il peut avoir un manager d'astreinte pour aider.
C'est vrai, et pour moi, en fait, j'ai jamais trop connu autant de niveaux dans du support ou de l'astreinte, etc. Moi, j'ai connu de l'astreinte où généralement il y a un niveau et une escalation possible, mais pas forcément quelqu'un de plus compétent ou d'identifier comme expert, etc. C'est juste quelqu'un en plus pour aider, finalement, plus que quelqu'un qu'un niveau, on va dire. C'est pas vraiment un niveau, c'est juste voilà quelqu'un qui est d'escalation ce jour-là. Et parce que moi, finalement, ma philosophie aujourd'hui, c'est vraiment éviter le passe-plat sur les alertes. C'est-à-dire, moi, je veux vraiment éviter quand je reçois une alerte ou quand quelqu'un de mon équipe ou quelqu'un d'une autre équipe reçoit une alerte, que son job, ça soit « Ah tiens, j'ai une alerte, mais ça, c'est pas pour moi, je le passe à quelqu'un d'autre. » Et je trouve que c'est vraiment très intéressant de travailler sur la catégorisation des alertes, donc leur ajouter des labels, des tags, etc., pour que ça arrive en fait directement à la bonne personne, dans le contexte-là, peut-être au bon niveau, pour éviter ces rebonds en fait entre équipes. Moi, c'est quelque chose qui m'apporte beaucoup, parce que voilà, c'est un truc que je ne supporte pas, c'est recevoir une alerte et être juste là pour faire le passe-plat à une autre équipe. Ça m'agace, je veux dire, c'est le truc... Enfin, voilà, quoi.
Tu spoil un des vrais problèmes des astreintes.
Ouais, alors je précise quand même que ça doit dépendre aussi de la taille de l'entreprise. Moi, je me référence à une grosse entreprise, une multinationale en l'occurrence, où il y a 600 personnes en informatique et où le premier niveau, il fait les 3-8. Ils sont pas en astreinte, eux. Ils font les 3-8, ils sont là tout le temps. Et c'est vrai que c'est le deuxième niveau qui fait l'astreinte et le troisième niveau qui qui est aussi d'astreinte, qui est l'escalade dont tu parles. Parfois, on a 4 niveaux. Justement, René nous a mis une petite anecdote qu'il veut nous raconter à propos des astreintes.
C'est ce qui m'a valu un surnom pendant longtemps du chat noir, en fait. Ma première astreinte, donc c'est, comme je disais, c'est quelque chose qui est assez qu'on aborde avec un état d'esprit, on est un peu en stress, quoi. C'est la première fois, on se demande si on va être capable d'assurer le truc. Et moi, lors de ma première astreinte, j'ai eu un truc qui arrive extrêmement rarement. J'ai eu un problème de climatisation sur un data center. Pour bien commencer, et voilà, j'ai vers 4h du matin, quelque chose comme ça, et j'ai passé la première chose que je devais faire, donc c'était de l'astreinte sur de l'infra, ça a été de commencer à préparer des listes de qu'est-ce que potentiellement il allait falloir arrêter en termes de système, en commençant par les moins critiques, et j'ai commencé, entre guillemets, si je me rappelle bien, à en arrêter quelques-uns. Mais après, bon, la situation au niveau de la chauffe du data center, la reprise de la clim, ça finit par s'améliorer. Mais voilà, c'était une entrée en matière un petit peu violente. J'en garde un souvenir. Voilà, une nuit quasi, réveillé vers, je sais plus, 3 ou 4 heures du matin et ça s'est, je sais pas à quelle heure ça s'est arrêté, mais voilà, dans la matinée, jusqu'à ce que la clim soit réparée, quoi. Voilà. Et par contre, j'ai échappé parce que j'ai un autre collègue, c'était pas sa première, lui, il a eu un dégât des eaux, donc avec 20 cm d'eau dans le faux plancher, au niveau des câbles, et etc. Parce que je sais plus ce qu'il y avait eu, un sprinkler qui avait déconné, etc. Il y avait de l'eau dans le data center. Donc, ça arrive aussi. Parfois, c'est...
Ouais, c'est pas top.
Non, pas trop. Center. Ouais.
Erwan voulait nous parler aussi de quelque chose. J'ai pas bien saisi les notes, donc je te laisse la parole, Erwan.
En termes d'organisation, pour les astreintes, il y a tout ce côté documentation aussi, de base de connaissances. Donc je sais plus lequel de vous évoquait ça, qui est quand même un sujet qui permet du coup à quelqu'un, parce qu'on peut pas forcément tout connaître par cœur, des détails des applicatifs, de l'infra ou quoi que ce soit. Donc souvent la doc en fait partie. Et puis arrive le stade du plan de reprise d'activité, donc ou DRP, qui peut être activé dans ce genre de cas, et donc encore une fois, je fais référence à un autre podcast qu'on avait enregistré il y a quelques temps, où on parlait de pourquoi on met en place ça, comment on le teste, etc. Et donc du coup, ça rentre dans cette dans cette optique d'organisation autour de la doc, parce que on va en revenir aussi avec les post-mortems, etc. Mais c'est souvent un point hyper critique pour faire des astreintes en toute sérénité et voir donc du coup appliquer des plans de reprise d'activité, comme quand chez OVH il y a eu le feu dans le data center.
Ouais, la doc est hyper importante parce que c'est en effet notre filet de sécurité quand on est en astreinte, et même quand on fait de l'exploitation, parce que toute l'équipe est peut-être pas forcément présente. Il y a peut-être des gens parce qu'on parle de l'astreinte, mais entre midi et deux, c'est pas de l'astreinte, mais on s'organise pour qu'il y ait toujours une continuité. Et parfois l'équipe est réduite, et donc la documentation, c'est hyper important. Et donc justement, à propos de documentation de procédure, je vais laisser la parole à Mathieu.
Alors vous avez déjà bien abordé le sujet. En effet, Erwan a dit quelque chose de très intéressant. On peut pas tout savoir. Et il faut savoir, si vous êtes d'astreinte, vous aurez des incidents non prévus. Et vous serez également souvent d'astreinte. Moi, ça a toujours été mon cas, sur des services sur lesquels vous n'avez jamais travaillé, ou rarement travaillé, du moins. C'est-à-dire qu'on parlera des équipes en astreinte plus tard, mais généralement, il y a plus de services que de personnes. Et quand au travail, vous travaillez que sur, un certain nombre de services, ou un certain nombre de, sur une partie de l'infrastructure, mais pas sur toute l'infrastructure. Mais généralement, vous êtes d'astreinte sur l'ensemble de cette infrastructure. Après, ça dépend des entreprises, de leur taille, etc. Certaines segmentent. Mais moi, j'ai toujours connu ça, d'être d'astreinte sur des services que je ne maîtrisais pas complètement. Et c'est là que les runbooks, donc la documentation, on appelle ça généralement runbook hein, en Astrate, sont importants. C'est des guides qui décrivent le fonctionnement d'une application ou d'une partie de l'infrastructure avec les différentes commandes pour investiguer des choses, par exemple, les liens vers les logs, les liens vers les métriques, et aussi des descriptions de procédures pour faire certaines actions, peut-être redémarrer un service, drainer des hyperviseurs, redémarrer des agents, je sais pas, enfin ça peut être n'importe quoi, mais c'est bien détaillé. Et ce qui est intéressant également, c'est d'avoir ces runbooks dans l'alerte. Donc c'est quelque chose qu'on fait, qu'on faisait également dans mon expérience précédente, c'est-à-dire on recevait une alerte qui disait ce service, le service Toto est en panne. Et dans l'alerte, dans le message que l'on reçoit, il y avait le lien vers le runbook pour ce service. Donc c'est-à-dire que la personne d'astreinte, elle ne perd pas de temps à chercher l'information, elle clique sur le lien, elle est directement redirigée vers la documentation du runbook, prête à travailler. Et dans ce runbook, il y a tout, voilà, comme je l'ai dit, l'accès, les liens vers les logs, l'accès, les liens vers les métriques, des commandes pour commencer à investiguer, des procédures décrites, des liens vers des anciens incidents, peut-être, ça peut être utile, etc., etc. Donc, l'aspect documentation est très, très important, notamment, comme je l'ai dit, quand vous êtes d'astreinte sur un service que vous ne maîtrisez pas totalement, ce qui est généralement le cas.
Ouais, je vais prendre la parole et après je laisserai la parole à René qui veut intervenir. C'est marrant ce que tu appelles runbook. Chez nous, on appelait ça des rex, des documentations d'exploitation. On avait, par exemple, chez nous, on avait un outil de résolution d'incidents qui avait, il y avait des arbres de résolution. Et notre travail, justement, à nous, c'était de compléter ces arbres de résolution pour, en fonction des alertes. On faisait des choses et en fonction des analyses qu'on faisait, on allait comme ça dans cet arbre et on avait à chaque étape de l'arbre, en effet, le lien vers la doc qui était important. Et comme tu le dis, c'est super important de tenir à jour des documentations d'incidents. Nous, c'est ce qu'on fait chez nous. À chaque fois qu'on a un incident sur Froggit, on tient le document à jour. On met ce qu'on a constaté. Comment on a résolu le problème et je demande aussi à ce qu'on mette quelles actions on va devoir mettre en place pour résoudre le problème de manière pérenne si on arrive à trouver la cause profonde du problème parce que en mode DevOps il faut qu'on améliore ça pour éviter que ça arrive. Allez René, je te laisse la parole.
Bah, ce que tu dis me fait penser à deux choses en fait. Il y a Sylvain Wallace qui avait partagé un incident qu'il avait eu chez Elastic et justement ça aussi c'est quelque chose qui se prépare quand on a un incident, la manière dont on va y répondre, dont on va le documenter, donc il y a des gens qui sont hyper pros et voilà qui dès qu'il y a une crise vont parce qu'après ça peut arriver à il y a l'incident un peu mineur mais ça peut dégénérer en crise, voilà, ça peut déjà être préparé et avoir des process bien rodés pour s'en sortir. Et niveau de la doc, peut-être quelque chose à mentionner, faut pas oublier que parfois on est réveillé à 3h du matin et on sait pas où le moment où on est le plus voilà, on a les neurones les plus connectés et je pense que cette doc là, il faut quand même quelque part qu'elle voilà, qu'elle soit suffisamment parfois peut-être un peu basique, enfin voilà, parfois c'est pas inutile de rappeler des choses qui semblent un peu basiques parce que on n'a pas la même capacité de réflexion quand on vient d'être réveillé, je pense.
Ouais, et alors je suis quand tout on... à fait d'accord.
Ouais.
Alors, vas-y, je te laisse aller,
ouais. Ouais, parce que je vois le temps qui file, alors du coup je reprends le lead un petit peu de l'émission. Quand on revient d'astreinte, qu'est-ce qu'on fait? Mathieu, tu voulais nous parler justement de ce qu'on appelle les post-mortem, ce qu'on appelle plus des retours le matin. Qu'est-ce qu'on fait après une nuit d'astreinte ou après un gros incident justement?
Alors bah t'en as déjà un peu parlé hein, Christophe, quand tu disais dans l'aspect documentation que de ton côté tu travaillais sur le document pour ensuite trouver la cause et faire en sorte que ça se reproduise pas. C'est aussi ça le but d'un post-mortem, donc finalement c'est être un document qui va contenir plusieurs choses, donc déjà ce qui s'est passé, c'est-à-dire le déroulement heure par heure ou minute par minute, on va dire les points clés, on va dire au niveau horaire de l'incident, par exemple l'alerte a sonné à telle heure, la personne d'Astrate a commencer à travailler sur le problème à telle heure, une deuxième personne la rejoindre, etc. Enfin, une description un peu détaillée de comment le problème a été résolu, quel était le problème finalement à la base, comment on fait en sorte, comme tu l'as dit Christophe, qu'il ne revienne pas, quelles sont les actions à prendre, etc. Sur ça, il y a le livre SRE, Site Reliability Engineer de Google, qui est un livre gratuit, qui est disponible sur Internet, qui a une section sur les post-mortem qui est très intéressante. sur l'écriture d'un post-mortem. Il y a généralement des templates de documents, des choses comme ça dans les entreprises. Et un point important, c'est aussi la culture qu'on généralement blameless des incidents, c'est-à-dire un incident, c'est de la faute de personne. Et on ne va pas dire dans un post-mortem ou pendant une intervention d'astreinte, ah bah ça, c'est encore de la faute de Christophe qui a encore poussé n'importe quoi en prod hier, etc., etc. S'il y a eu une erreur de fait, c'est parce que les process de l'entreprise ont laissé passer erreur, et ou bien l'équipe n'a pas fait une review assez détaillée du projet, d'une pull request ou autre. Donc on est tous responsables de ça, et on travaille à l'amélioration des choses et non à blâmer les gens ou à surtout ou même les personnes d'astreinte, parce que quand on est d'astreinte, on a beaucoup de pression, on peut parfois faire aussi des erreurs en tant que personne d'astreinte, et ça sert à rien de tourner le couteau dans la plaie et dire c'est de la faute de quelqu'un, pointer du doigt quelqu'un ou une équipe lorsqu'il y a des incidents.
René, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la gestion de crise ?
Ouais, alors j'en ai dit deux mots juste un petit peu avant. Donc des gens qui, ce qui est important aussi, ce qui peut se passer, c'est qu'un incident dégénère, entre guillemets, on rentre dans une crise. Du coup, là, on sort un petit peu du cadre de l'astreinte pure, hein, parce que là, ça risque de monopoliser beaucoup plus de personnes, etc. Notamment en termes de crise, on peut penser au chiffrement des crypto-lockers, en fait, de chiffrement des machines par un programme malveillant. C'est un type de crise. Et là, je pense qu'il est important, quand on rentre dans ces situations-là, c'est vraiment de tracer vraiment tout ce qui est fait. Pas forcément que dans ce cas-là. Hein, une crise, ça peut être d'autres choses. Hein, ça peut être un incendie, ça peut être voilà. Mais voilà, essayer de tracer un petit peu ce qui est fait, etc. Parce que à un moment, quand il y a beaucoup, quand on commence à avoir plusieurs intervenants, etc., ou un petit peu, on a du mal à se rappeler ce qui a été fait, surtout que ce qui va se passer, et c'est là où ce qui est important, je pense, dans une gestion de crise, c'est aussi de savoir faire des rotations et épargner les gens. C'est-à-dire, on peut pas travailler trop longtemps de suite. À un moment, ça va pas plus le faire. Donc, il faut arriver, et je pense que c'est aussi important d'avoir des gens un peu extérieurs quand on rentre dans des crises pour faire un peu les garde-fous, éviter que les personnes, par exemple, techniques se crament, entre guillemets, et passent le relais à d'autres collègues. Et là, dans ce cas-là, le suivi, il devient vraiment super important. Et voilà, je pense que dans ces cas-là, c'est vraiment important de tracer ce qui est fait.
Tout à fait. Et du coup, on en a déjà parlé un petit peu dans un épisode de podcast qui s'appelait « Que faire en cas de désastre ?» où on vous met le lien en description. Mais Mathieu, tu voulais nous parler de la gestion d'incidents de manière un petit peu globale. Je sais que tu as mis quelques points. Est-ce que tu peux dire quelques mots et après on passera à la section suivante.
Ça rejoint un peu ce que dit René, c'est qu'il faut que ça soit organisé quand on reçoit une alerte, surtout quand il y a un incident un peu complexe. Il faut pas que ça parte dans tous les sens. Il y a des histoires de personnes, par exemple, vous avez deux personnes qui travaillent sur un incident, qui se mettent pas d'accord, et en fait les deux font des actions en production en parallèle, et ça cause en fait plus de problèmes que l'incident lui-même. Donc faut faire très attention. Et aujourd'hui, il y a des procédures vraiment à mettre en place, finalement, enfin qui sont mises en place lorsqu'il y a des incidents. Donc on parle par exemple d'incident commander, donc une personne qui va être en charge de diriger. De suivre l'incident et de, on va dire, prendre des décisions en quelque sorte, mais faire en sorte qu'il n'y ait pas de conflit ou de une vraie organisation, on va dire, lors de la réponse. Il y a des process dans l'entreprise actuelle, par exemple, il va y avoir automatiquement en cas d'incident un Slack, un channel Slack dédié créé pour l'occasion, un commander qui va être assigné à l'incident, une page de documentation créée avec un template prêt à être rempli au fur et à mesure, etc., etc. Parce qu'il faut pas que ça parte dans tous les sens, surtout quand il y a plusieurs personnes impliquées, où là, tout le monde peut commencer à se marcher dessus et ça peut être très compliqué. Voilà.
Eh ben, merci. Et justement, puisqu'on parle de plein d'incidents, je tiens à rappeler qu'on a lancé une émission en live tous les deux mois avec René, qui s'appelle « Raconte-nous tes gros échecs », et où vous pouvez avoir justement des retours d'expérience et des personnes qui viennent nous raconter ces échecs. Et même si toi, t'en as vécu dans ton entreprise, bah, tu peux venir en live et tu peux même monter sur la scène et nous raconter justement tes problèmes. C'est tous les deux mois, vous pourrez trouver ça sur la chaîne YouTube. Vous n'aurez aucun souci.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Et on va parler justement de la gestion d'équipe. Dans la gestion d'une production ou de la gestion des astreintes, on va parler de la gestion d'équipe et c'est Erwan qui va lancer le bal.
Oui, parce que gérer des astreintes, du coup, ça veut dire... alors, je pars du principe qu'on est en mode H24 avec un SLA un peu fort. Bah, ça veut dire, du coup, nécessité de la disponibilité, enfin, de la réserve chez les gens. Donc, ça veut dire que forcément, bah, s'il y a un problème, c'est des personnes qui vont travailler peut-être des fois tard la nuit, etc. Et qui donc du coup, bah, légalement, ils doivent récupérer, etc. Donc du coup, il y a ce côté qui est toujours un peu délicat sur l'organisation et sur l'équipe, ce qui est que quand on est dans des petites équipes, comment on s'organise pour faire ce genre de rotation, parce que faire des astrates à deux, par exemple, ça n'existe pas, parce que si votre collègue il part 3 semaines en vacances, vous n'allez pas être tout seul à faire des astreintes H24. Imaginons que pendant qu'il part en vacances, il y a un vrai incident de prod important, etc. Le staffing autour de ça est très délicat. Il y a des fois des choses un petit peu délicates qui peuvent paraître surprenantes en termes d'astreintes avec même des services offshore ou quoi que ce soit pour permettre même à des petites équipes d'avoir ce genre d'approche, mais c'est pas évident et surtout c'est toujours, il faut savoir placer le curseur entre ce que l'astreinte coûte en termes de sous, mais même en termes d'équipe, d'énergie, etc. Et rapporte, et quel est le risque que la boîte et le service peut prendre à ça. Et là-dessus, je vous laisse poursuivre.
Justement, je vais poursuivre parce que ça fait écho à un point que je voulais aborder, mais à la fin, mais du coup, je l'aborde tout de suite. En effet, la question, c'est est-ce qu'on a vraiment besoin d'une astreinte? Ça, c'est la première question à se poser quand on est une organisation. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'une astreinte parce que ça a un coût humain important? Et même quand on est client d'un service en ligne, est-ce qu'on a besoin d'un SLA hyper important? Nous, on fait de l'infogérance un petit peu, donc on fait pas du service SaaS. Enfin, on fait du service SaaS, mais on fait aussi de l'infogérance. Et quand on a des clients qui viennent nous voir et qui nous disent, bah, on voudrait du 99,99, on leur dit, bah, ça va vous coûter extrêmement cher en termes d'infrastructure, en termes humains. Nous, on n'est pas staffé pour faire de l'astreinte. Est-ce que vraiment vous voulez ça, ou est-ce que c'est juste vous avez envie parce que ça fait bien sur votre site internet? Donc, il y a une question de besoin à se poser justement avant ça. Et tu posais la question de, on peut pas faire d'astreinte à deux. Bah non, typiquement on est trois, dont deux patrons, on va dire. On est deux associés et un salarié. Et du coup, il y a pas d'astreinte. Mais même quand on est en vacances, du coup, on est mobilisable parce qu'on peut pas se permettre de perdre nos prods. Et puis en plus, on a deux services en ligne, donc quoi qu'il arrive, il faut qu'on puisse les suivre. Mais par contre, on fait pas d'astreinte dans le sens où on n'assure pas à nos clients du 24/24/7/7.
Du coup, la question que je vais poser, c'est est-ce que dans vos expériences, vous avez une
une masse critique de personnes qui peuvent faire des astreintes que, à partir de laquelle vous estimez que là, c'est bien parce que ça va pas coûter trop d'énergie aux gens, c'est bien dilué, c'est pas trop contraignant, parce qu'il faut pas oublier que, on va en revenir, j'imagine, dans les problèmes, mais que l'astreinte, c'est contraignant. C'est-à-dire que si je suis d'astreinte, je pars pas au foot, quoi. Est-ce que vous avez une idée de cette masse critique?
On n'a pas trop.
Moi, j'ai un nombre.
Et pour l'instant, comment?
Ah, désolé, Christophe. Je te laisse finir, vas-y.
Ah, oui, il y a encore un petit peu de lag, désolé. Nous, on ne s'est pas encore posé la question. On ne s'est pas encore posé la question là-dessus, parce que justement, on est trop peu nombreux et que peut-être quand on sera 4 ou 5, on se posera vraiment la question. Surtout qu'en plus, on est trois, mais il faut bien se dire que les deux associés qui font à la fois, qui assurent, quoi qu'il arrive, en dehors des heures de travaux. Par exemple, moi, je fais les mises à jour de Frogit le week-end. Il y a que moi qui le fais. C'est pas mon alternant qui le fait parce qu'il fait pas d'astreinte, etc. Moi, je le fais, mais en heure de bureau le week-end. Et par contre, le truc, c'est que nous, on doit aussi gérer la stratégie, le commercial, le marketing, tout ce qui est administratif. Donc on peut pas se permettre de faire d'astreinte en plus. J'ai perdu le fil, donc je vais laisser la parole à Mathieu.
Ouais, bah moi en fait j'ai un chiffre, on va dire, sur ça. Pour moi, le minimum pour que ça soit à peu près confortable, du moins c'est moi, c'est-à-dire quand je rejoins une astreinte, c'est ce que j'attends en chiffre minimum sans escalation, c'est 5 personnes. C'est-à-dire d'astreinte, voilà, enfin, avec le roulement, bien sûr, donc on va dire une fois sur 5, c'est pour moi le minimum pour que ça soit confortable. C'est pour moi, c'est un peu plus. Ça doit être, voilà. Idéalement, moi, j'aimerais mettre d'astreinte une fois tous les mois et demi, par exemple. C'est ce que j'ai connu, notamment dans ma carrière. C'était une semaine tous les mois et demi, voire un petit peu plus. Mais le minimum pour moi, c'est 5, parce qu'en plus, il faut penser, tu l'avais dit, Erwan, au congé. L'été, la période des fêtes de Noël est toujours très compliquée pour les gens d'astreinte parce que tout le monde veut partir généralement au même moment. Donc il y en a toujours un ou deux qui doivent se sacrifier. Mais bon, c'est comme ça. Hein. Moi, j'ai été d'astreinte Nouvel An. Non, enfin, là, j'étais en inter. J'avais pas de travail Nouvel An. Je changeais, donc c'était différent. Mais l'année d'avant, c'était moins d'astreinte pendant les fêtes. Bon, bah voilà. Mais voilà. En tout cas, pour moi, ce chiffre, c'est ça. À partir de 5, ça va. En dessous, ça commence à être compliqué. Sans escalation, je précise.
Ouais, je suis assez d'accord.
Totalement.
Ouais, parce que justement, nous, on faisait des astreintes toutes les 4 semaines. On était une équipe de 15, mais il y avait plusieurs domaines, en fait. Du coup, il y avait plusieurs astreintes en même temps. Et toutes les 4 semaines, ça fait beaucoup, en fait, parce que tu t'épuises. On en parlera plus tard, mais tu t'épuises vraiment. Et même 5, je trouve que c'est pas assez. 6, c'est bien, parce que tous les mois et demi, comme tu dis, c'est quand même pas mal. Idéalement, tous les 2 mois, c'est peut-être le maximum, parce qu'au bout d'un moment, tu perds l'habitude que tu as en astreinte aussi. C'est-à-dire que si tu fais une astreinte tous les 2 mois, c'est peut-être trop espacé. Bon, tous les mois et demi, c'est bien.
Après, c'est un petit peu aussi à pondérer, en fait, aussi suivant ce qui se passe. Parce qu'il y a des astreintes qui sont relativement cool, parce que c'est des périmètres où voilà, ça peut être plus cool. Après, il y a parfois des astreintes où c'est quasiment toutes les nuits où on est réveillé. Donc, des situations pas justement qui sont très difficiles, quoi. Faut essayer de limiter, hein. On est bien d'accord. Hein. Mais il faut avoir des moments où c'est compliqué.
Ça rejoint un petit peu ce qu'on disait sur la notion de notification et d'alerting, et aussi de ce que tu considères comme prod et donc comme actionnable si ça marche pas à des heures de où les gens ne sont pas censés travailler, quoi. C'est
justement, René, tu voulais nous parler d'un petit peu d'escalade et autres. Est-ce que tu peux préciser ce que tu nous as mis dans les notes de l'épisode ?
Oui, bah en fait, ça, j'en ai parlé un petit peu. Je pense qu'il est important aussi, c'est de parfois pas être seul. C'est-à-dire, le fondamental, c'est aussi savoir comment contacter les autres astreintes si le problème n'est pas dans son domaine. Je ne sais pas si c'est de la base de données et qu'il y a une astreinte sur la base de données, bah, savoir comment contacter ces personnes-là, c'est le basique. Mais après, comme je disais, un manager d'astreinte, ça peut être aussi intéressant quand il y a des situations où on ne sait pas trop quoi faire. Est-ce que voilà, même si la personne n'a pas forcément les, on va dire la partie technique, ça permet aussi des fois d'échanger et de d'avoir une autre personne du recul pour décider entre guillemets de la meilleure stratégie à adopter quand on est parfois un peu coincé ou il y a des choix à faire sur différents types de résolutions, etc.
Moi, ça me permet de rebondir sur un truc qu'on a un peu déjà évoqué, mais qu'on peut rappeler là, qui est justement, moi, le contexte où j'ai fait des astreintes et où j'ai été le plus serein, c'est quand on était en pair pour faire les astreintes. Et donc, il y avait un profil, on va dire, un peu plus ops, donc c'était moi, et un profil plus dev. Et clairement, alors malgré encore une fois ça veut pas dire que quand on est en pair on fait pas de doc, on fait pas de procédures ou on n'a pas d'outils d'automatisation, etc. Mais n'empêche que être à deux avec des profils un peu différents, bah c'est et rassurant et souvent plus efficace des fois pour répondre aux besoins, quoi.
T'es d'accord, Mathieu?
Ouais, j'ai connu ça aussi en fait, un dev, un ops avec de l'escalation, c'est top.
Bon, du coup, je vais donner quelques tips que j'ai glanés avec mon expérience, parce que je pense pas refaire de l'astreinte un jour, mais mes petits tips, c'est quand vous prenez le téléphone d'astreinte, quand vous avez commencé votre astreinte une journée ou une semaine, assurez-vous d'avoir en effet tous les numéros de téléphone de tous les autres astreintes, assurez-vous qu'ils soient tous là, et puis surtout, chaque jour, et puis la semaine avant, lisez les rapports d'astreinte, parce que souvent dans les entreprises, en tout cas chez nous c'était le cas, tous les matins on devait envoyer le rapport d'astreinte de ce qui s'était passé sur la nuit. Donc lisez les rapports d'astreinte de la semaine précédente et surtout regardez les incidents notables qui ont eu lieu dans la journée, parce que si vous partez en astreinte la nuit mais que vous n'êtes pas au courant de ce qui s'est passé dans la journée, vous pourriez avoir des surprises parce qu'il y a des effets de bord qui arrivent la nuit ou le week-end par rapport à ce qui s'est passé la semaine. Est-ce que vous avez des petits tips à partager avant qu'on passe justement à la suite?
Alors, moi, celui que t'as dit sur avoir les numéros de téléphone, moi, j'irais même plus loin dans le sens où moi, j'ai beaucoup utilisé, j'utilise même toujours des applications comme PagerDuty, Service SaaS ou OpsGenie. Et en fait, ces applications permettent même de réveiller via juste un email à une adresse, par exemple ops@quelquechose.com ou je sais pas, sans avoir le nom exact de la personne qui est d'astreinte à ce moment-là. C'est-à-dire que j'ai pas vraiment à perdre du temps à aller chercher dans mon calendrier, ok, c'est qui en ce moment-là, alors c'est quoi son numéro, etc. Je clique sur un bouton et hop, ça escalade et ça appelle de l'aide. Donc c'est plutôt ça. Voilà, je voulais rebondir là-dessus. Et sinon, un autre tip, c'est surtout on pourra en parler, mais c'est la gestion du stress. Il faut pas. Je pense que c'est vraiment le plus gros point de blocage des gens quand ils commencent l'astreinte. C'est leur première expérience d'astreinte ou des développeurs d'astreinte qui n'ont pas l'habitude de faire de la prod. Il y a un gros niveau de stress au début et faut. Comment dire, c'est pas facile, mais il faut se dire qu'on n'est pas, c'est ok de pas tout savoir. Vous êtes pas tout seul. C'est ok d'appeler aussi l'escalation. Faut pas hésiter. C'est-à-dire, il y a des gens qui se disent, oh, j'ai peur de réveiller l'escalation parce que après ils vont me dire, pourquoi tu m'as appelé? Non, vous savez pas. Et c'est pour ça que les gens sont d'escalation. C'est des gens qui sont là pour ça, qui sont même souvent payés pour ça. Donc, faites-le et voilà. Ne vous sentez pas responsable de tout. C'est normal de pas savoir. Enfin voilà, c'est un point très important, moi, ce point-là pour moi.
Je vais rajouter un tout petit truc à ce que Mathieu a dit, c'est que du coup, faut pas hésiter effectivement à pinguer, etc. Et quand on sait pas, et surtout, faut pas faire le champion. Si on sait pas et qu'on se dit, oh, peut-être qu'en faisant ça, en fait, oublie. si c'est pas dans les docs, que t'en as jamais entendu parler, que c'est pas suffisamment clair, en fait, fais pas le champion. C'est ton devoir, c'est de remonter l'info aux personnes qui vont savoir réparer et remettre le truc sur pied et respecter les SLA. Moi, c'est comme ça que je le vois, en tout cas.
Ouais, c'est super important parce que j'ai beau parler de la culture de l'échec et d'apprendre de ses échecs et de ne pas forcément avoir peur en faisant des choses. L'astreinte, c'est pas vraiment le moment où il faut innover. Il y a des moments pour innover, il y a des moments pour tenter de faire des erreurs, mais l'astreinte, c'est pas vraiment ça parce que souvent, quand vous êtes d'astreinte, c'est sur des applications critiques, ultra critiques, qui sont importantes pour le business. C'est ça qui rapporte de l'argent, souvent. Les applications qui rapportent pas d'argent, il n'y a pas d'astreinte dessus. Enfin, je veux dire, à un moment donné, faut se réveiller. Donc, le but premier, c'est que le service soit up. Le but, c'est pas de résoudre le problème. C'est pas de, comment dire, c'est pas de résoudre définitivement le problème. C'est remonter le service. Donc n'innovez pas, comme dit Erwan, si ça a jamais été fait, ne tentez rien. Ou alors, soyez sûr de ce que vous faites, parce que ça peut être le cas. Hein. Vous pouvez vous dire, ouais, alors si je fais ça, il va se passer comme ça. René, est-ce que tu as des petits tips ?
Bah moi, il y a quelque chose. Alors, je pense qu'il faut aussi des fois un peu relativiser. Alors après, on est d'accord, il y a des applications qui peut-être dans le milieu médical, etc., sont extrêmement critiques, voilà. Mais bon, suivant le domaine, parfois il faut aussi un petit peu relativiser. Oui, on perd parfois de l'argent, c'est pas agréable, etc. Mais voilà, il n'y a pas toujours mort d'homme, quoi. Voilà. Pas s'en foutre non plus, hein, c'est pas ce que je veux dire, mais voilà, faut pour des fois un peu évacuer ce stress. C'est pas parce qu'il va avoir une heure d'indisponibilité suivant le service que c'est absolument dramatique.
Voilà. Ouais, surtout qu'on peut vous mettre la pression. Moi, je sais que chez Casino, on avait le DSI qui était tout le temps d'astreinte, et quand l'incident, alors par contre, j'ai jamais compris cette histoire-là. Quand l'incident durait plus d'une heure. Ou plus de 30 minutes, je sais pas. Il t'a appelé directement. Et surtout, hein, sur tous les périmètres, ce qui fait qu'il devait être, il devait passer des nuits, je sais pas comment il faisait. Mais des fois, il était juste réveillé parce que, voilà, ça durait un petit peu longtemps et que parfois c'était important. Et parfois ça l'était pas. C'est bien dommage. Ben, on va parler, justement des problèmes qu'on peut avoir en gérant des astreintes ou en exploitant une prod. Et Mathieu en a parlé, la gestion du stress est un vrai problème. Est-ce que vous avez justement, est-ce que vous voulez intervenir sur la gestion du stress, René ou Erwan? Parce que je crois que Mathieu s'est déjà pas mal exprimé.
Non, je fais plus un à René qui parlait du contexte. Il faut se détendre sur ce qu'on fait. Bien sûr, c'est pas marrant quand un truc tombe, mais faut rester cool, parce que sauf si tu travailles pour un truc qui opère des gens à cœur ouvert en live sur Twitch, il y a pas à se stresser pour remettre le service up, quoi. Et donc du coup, et je pense que souvent le stress, il y a une bonne partie du stress qui est générée par ça, en se disant merde, c'est cassé. Ouais, mais c'est cassé, mais c'est pas grave. Tu vas le réparer, ça va reprendre un cours normal, et puis voilà, quoi. Et ça, je pense que surtout sur les personnes qui ont moins d'expérience, c'est peut-être quelque chose qui est plus dur à appréhender. Et c'est là que l'organisation, la culture d'entreprise, la culture de l'équipe joue beaucoup. Mais la gestion de stress, c'est clairement le premier truc. Moi personnellement, mes premières astreintes, je me souviens que dès que le téléphone sonnait, je me disais oh putain, c'est la merde, et puis après on se détend, quoi, c'est pas grave.
Bah, en plus il y a un truc important, c'est que souvent quand on est stressé ou qu'on a peur, c'est des mauvais conseils, en fait. On va faire plus de boulettes que si on est un petit peu détendu, quoi. Après, je pense qu'il y a fondamentalement quand même peut-être des choses, des personnes qui sont plus voilà, faut quand même être un peu ce qu'on dit stress résistance, et il y a des gens, je pense, c'est faut pas qu'ils en fassent, parce que il faut pas se rendre malade non plus. Voilà, ça peut ne pas être fait pour tout le monde, et c'est pour ça que souvent, alors je sais pas vous, non, mais c'est souvent les astreintes, c'était basé quand même aussi un peu sur le volontariat, parce que si vraiment ça vous rend malade, c'est pas la peine non plus, quoi.
C'est une bonne transition au sujet suivant, je pense, Christophe, ce ouais. que tu dis sur c'est parfait. je peux peut-être y aller sur la, en effet, sur, tu parlais de volontariat, René, mais pour moi, c'est super important que si une entreprise recherche un poste avec de l'astreinte, ça soit clair dès le début. C'est-à-dire, l'astreinte, c'est une contrainte sur la vie personnelle, on en parlera. Il faut que ça soit clair dès le début au niveau contrat, rémunération, etc. Vous allez faire de l'astreinte dans ce poste. C'est un peu obligatoire. Voilà, on a besoin de gens pour faire de l'astreinte parce qu'on a un service qui doit tourner 24 heures sur 24. Hein, c'est une contrainte. Ça sera une contrainte pour vous, pour votre vie personnelle également. Et il y a des gens, c'est totalement compréhensible, qui ne veulent pas le faire. Qui ne veut pas faire d'astreinte pour différentes raisons, voilà, c'est pas du tout un problème, et donc c'est ok de dire non à l'astreinte, surtout si on n'a pas été prévenu, on va dire, au moment de la signature de contrat. Et pour moi, ça doit être clair dès le début. Il faut pas se réveiller un matin avec le chef qui dit tiens, en fait, t'es d'astreinte alors qu'on n'en a jamais parlé avant. faut que ça soit vraiment carré et un processus clair pour entrer dans de l'astreinte.
Ouais, je rajoute en effet que en théorie, je me rappelle moi quand j'ai commencé à faire des astreintes, mon entreprise a fait un avenant à mon contrat de travail pour stipuler ça, parce que c'était pas le cas avant. Et le client chez lequel j'allais voulait que je fasse des astreintes. Du coup, mon entreprise m'a dit « Est-ce que tu veux bien ?» Je leur ai dit « Bah ouais. » Et du coup, j'ai eu un avenant au contrat de travail qui stipulait en effet pas mal de choses parce que ça sort du cadre. Alors, c'était il y a quelques années, peut-être que maintenant, c'est plus vraiment le cas, je sais pas. Mais en tout cas, les choses doivent être claires dès le départ et elles doivent être acceptées des deux côtés.
Mais du coup, enfin moi je trouve que c'est effectivement un très gros problème ce sujet parce que il y a des gens qui jouent pas trop le jeu sur justement le fait de dire qu'il y a des astreintes ou quoi que ce soit et ça peut être un vrai truc de litige et surtout moi je pense qu'il faut faire attention par rapport à ce que tu disais René sur le côté volontariat, c'est que en fait c'est pas du volontariat, c'est du on call, donc faut être dispo, etc. Donc c'est quelque chose qu'on doit assumer et qui est légalement très réglementé, que ce soit sur la récupération, sur la rémunération, sur le temps de travail, et donc du coup c'est le fait que ce que dit Mathieu sur le fait que ça doit être clair dès le début et dans le contrat avec effectivement comme dans le cas de Christophe avec des avenants si ça n'avait pas été prévu au début, c'est hyper important parce que le danger de tout ça c'est que, et c'est souvent le cas dans des petites entreprises et ça moi je malheureusement je connais pas mal, c'est que on considère que comme c'est petit, t'es pas mal impliqué, etc. En fait des fois le dimanche tu vas regarder ce qui se passe, il y a un truc qui est rouge, ok je répare, mais en fait ça tu le fais, ça veut dire que tu l'assumes, mais si dans ton contrat si t'as pas d'astreinte ou quoi que ce soit, c'est pas à toi de le faire et ça attendra le lundi pourquoi ? Parce que il faut pas que pour l'entreprise ça soit quelque chose d'acquis. Ce comportement, c'est-à-dire que si t'as pris du temps le dimanche pour faire ça, normalement c'est rémunéré, etc. Et donc du coup, si y a un moment tu l'as fait alors que t'as pas tout ça dans ton contrat, c'est juste parce que t'as bien voulu le faire et c'est pas un acquis. Ça veut pas dire que le dimanche prochain, s'il y a la même chose, tu refais la même chose. Et ça, je pense que c'est quelque chose vraiment, surtout encore une fois pour ceux qui ont peut-être le moins d'expérience et qui commencent leur carrière d'ops, de DevOps ou autre, c'est quelque chose qui est vraiment à bien garder en tête. Faut faire vraiment très attention à ça.
Ouais, alors je vais rebondir là-dessus parce que quand je faisais des astreintes, je te donnerai la parole après René, j'ai vu. Quand je faisais des astreintes, j'étais salarié, aujourd'hui je suis employeur, donc du coup j'ai les deux visions. Première chose à ne jamais oublier, parce qu'on a dit c'est sur volontariat, quand tu es salarié d'une entreprise, tu n'es pas volontaire, tu es soumis à la subordination. Ton employeur, il te dit quoi faire et toi, tu dois lui obéir. Et c'est le contrat de travail qui veut ça. C'est le seul endroit, finalement, où tu as quelqu'un qui te donne des ordres et qui te dit quoi faire. On peut présenter ça, en effet, sous l'angle du volontariat, mais à un moment donné, si t'es pas volontaire pour faire des astreintes et que ton employeur, il veut que tu fasses des astreintes, c'est soit tu pars, il te licencie, soit tu les fais. Il n'y a pas de volontariat. Je veux bien qu'on fasse de l'angélisme, mais à un moment donné, les choses sont claires. Ton employeur, il veut que tu fasses des astreintes, t'en fais. Si c'est dans ton contrat de travail. Si ça ne l'est pas, c'est un peu plus compliqué. Mais il peut te forcer la main pour justement signer des avenants. Mais ça, c'est un autre débat. On parlait de la rémunération. C'est l'autre point sur lequel je voulais rebondir. En théorie, quand tu fais des astreintes, en tout cas, c'était le cas à mon époque, tu as une prime d'astreinte. Donc, à chaque fois que tu prends les astreintes, tu as une prime par jour, donc tu t'es payé pour justement être à disposition, et après, quand tu interviens, tu es payé comme ton heure de travail, et ça peut aller jusqu'à des heures supplémentaires, parce qu'en fait, tes heures d'astreinte, elles vont se cumuler jusqu'à, tu fais tes 35 heures, tu fais 2-3 heures d'astreinte dans la semaine, tu cumules, et tu peux aller comme ça jusqu'à le maximum légal, qui est, je crois, 48 heures, si je ne m'abuse. Et au bout d'un moment, quand tu as atteint ton maximum légal, il se passe des choses. est-ce que tu dois continuer ou pas ton astreinte, c'est là où ça devient flou. Et là, c'est toi qui dois voir si tu veux aller jusqu'à l'illégalité ou pas. Mais en théorie, tu dois pas déborder le maximum d'heures supplémentaires. Et ces heures d'astreinte que tu fais, elles sont payées aux heures légales et aux heures supplémentaires. Mais tu as ta prime d'astreinte, donc ça peut être intéressant en termes de rémunération. René ?
Non, bah, pour dire que je suis entièrement d'accord avec ce que vous avez dit, juste que bah, je pense que j'ai été chanceux parce que ce que j'ai connu, on avait des primes bah, relativement conséquentes, c'était relativement intéressant. J'étais dans un service où on était quand même assez nombreux, donc voilà, on avait un peu le luxe d'avoir un peu ce côté volontariat. Et comme c'était quand même bien rémunéré et en plus, bah, entre guillemets, il y avait un peu une solidarité entre nous, bah, les gens faisaient les astreintes assez volontiers, ce qui fait qu'on tournait pas tant que ça. Enfin, voilà, on n'en avait pas, voilà, on pouvait, on n'était pas tout le temps en astreinte. Et voilà, moi j'ai eu ce cas où parfois ça peut aussi bien se passer et être organisé correctement. Et voilà, moi j'ai jamais souffert de ça en fait.
De même, j'ai toujours été bien payé pendant mes astreintes, exactement comme Christophe l'a dit. Donc, c'était des astreintes à la semaine, donc une prime à la semaine, fois deux pendant la période de Noël. Voilà, histoire de motiver les gens à prendre d'astreintes. Et ensuite, des heures supplémentaires, donc majorées, hein, le week-end, par exemple, en 100% ou 150%, au jour férié, etc., je sais plus exactement, lors d'intervention. Le décompte d'intervention avec un minimum de temps, c'est-à-dire quand l'alerte 5 minutes, ça comptait, on arrondissait au quart d'heure ou quelque chose comme ça. Voilà, il y a souvent des arrondis qui sont faits à l'unité supérieure pour le décompte du temps, pour simplifier.
Après, nous, s'il n'y avait pas de... on n'avait pas ce... Enfin, on avait un forfait. Le forfait était différent, en fait, en fonction si on recevait des appels ou pas. Parce qu'il y a eu des cas où, parfois, tu pouvais ne pas avoir d'appel. Donc, il y avait un... dire un niveau en cas d'appel voilà qui c'était un peu plus que s'il n'y en avait pas par contre nous il n'y avait pas spécialement de paiement des heures qui étaient faites, par contre on les récupérait. Voilà. Après je pense que ça dépend aussi du
ouais
du contrat cadre horaire, pas cadre horaire, etc. Je pense qu'il y a, ça aussi ça doit jouer peut-être un petit peu sur ce qui est possible de faire.
Je pense que ça dépend des entreprises. En effet, il y a des entreprises qui préfèrent payer les heures supplémentaires que tu rattrapes. Mais en effet, tu peux rattraper tes heures d'astreinte. Ben, ça nous permet de faire une petite transition. Alors, normalement, c'est plus tard, mais peut-être qu'on va parler tout de suite de la fatigue. Justement, Mathieu, tu voulais nous parler un petit peu de la fatigue liée à l'astreinte.
Alors, je vais déjà parler de la fatigue. Il y a quelque chose qu'on appelle souvent alerte fatigue. C'était une série d'articles, voilà, de discussions qu'il y avait eu sur l'astreinte et sur la gestion des alertes il y a quelques années. Et c'est alerte fatigue, c'est quelque chose qu'on entend souvent. C'est le fait que dans certaines entreprises, les gens reçoivent en permanence des alertes en journée ou ça peut être la nuit, etc. Et finalement, au bout d'un moment, c'est comme crier au loup. C'est-à-dire que soit les gens les ignorent, c'est-à-dire c'est ah bah tiens, on a reçu 30 alertes, mais c'est normal. Ce qui ne devrait pas être normal parce qu'une alerte c'est censé être quelque chose à traiter, soit bah, causer de la fatigue aux gens, etc., une surcharge de travail. Mais voilà, donc c'est important de tenir en compte, une alerte elle n'est pas censée revenir, on n'est pas censé être inondé d'alertes en permanence, etc. D'où le fait de faire des post-mortem, des documentations, etc. pour limiter le nombre d'alertes, voire créer des systèmes où les alertes peuvent se résoudre toutes seules. Voilà, parce qu'au bout d'un moment, on reçoit une alerte et l'alerte, la seule action, c'est redémarrer le service. Et ben, je préfère limite mettre un truc entre les deux qui va le faire pour moi plutôt qu'être réveillé. Donc, on peut aussi automatiser, avec la culture. On est sur un podcast sur la culture DevOps, donc c'est en lien, bien sûr, à automatiser la résolution des alertes.
Je suis parfaitement d'accord avec toi. Justement, je l'ai vécu ça. J'ai vécu des astreintes où on savait que régulièrement, à une certaine heure, tu pouvais être appelé pour un truc et la seule consigne, c'était regardez le train passer. Je déconne même pas. Hein. C'était ça. Alors moi, ça me gonflait. Ça m'est arrivé une fois, deux fois. J'ai dit mais pourquoi est-ce qu'elle est là cette alerte? Elle sert à quelque chose et tout. Donc posez-vous la question de cette alerte là. Est-ce qu'elle est vraiment pertinente? Et si elle l'est pas, faut la supprimer parce que ça ne sert à rien de regarder le train passer. René, tu voulais nous parler justement puisqu'on est dans le sujet de la fatigue, de la récupération.
Oui, c'est un peu ce que je disais, c'est que voilà, après, mais je pense que c'est quelque chose que tu vas aborder après, mais quand on est intervenu en astreinte de nuit, on peut pas forcément. Enfin voilà, on rattaque pas le boulot. Si on s'est levé à 4 heures du matin, on a travaillé jusqu'à 6 heures, on n'attaque pas le boulot à 8 heures, quoi. Il faut quand même avoir une période de récupération pour voilà, de se remettre des 2 heures qu'on a passées dans la nuit. Et voilà, c'est un petit peu. Il faut que ce soit prévu quelque part dans le contrat d'astreinte ou entre guillemets dans l'organisation.
Bah, ça tombe bien, c'est prévu dans la loi en fait. C'est ce que j'allais dire. La loi, elle prévoit qu'on doit avoir un repos hebdomadaire, si ça n'a pas changé, hein, de 11 heures consécutives. Ça veut dire que il y a deux cas possibles. Soit à partir du moment où vous avez quitté votre poste, vous n'avez pas été réveillé avant 11 heures consécutives. Je prends l'exemple, vous avez quitté votre travail à 17 h plus 11 h, je sais plus combien ça fait, mais genre vous avez été réveillé genre vers 6 h du matin, je pense que ça devrait faire les 11 h. Et ben là, vos 11 h, vous les avez. Donc là, vous pouvez reprendre à 8 h en théorie, sans aucun problème. Par contre, dans le cas où nous dit René, en effet, vous n'avez pas eu vos 11 h consécutives, ne vous pointez pas à 8 h. Et si votre entreprise vous force et vous dit non, non, tu dois être là le matin à 9 h comme tous les jours, vous pouvez lui dire non, non, déconne pas, la loi elle dit ça, si tu veux, tu peux être hors la loi, mais si tu es hors la loi, moi je te colle au prud'homme, ou je fais appel, enfin bref, moi je suis une forte tête, moi c'est ce que j'ai fait, mais vous faites pas avoir parce que vous avez besoin de vous reposer pour être efficace au boulot. Si votre manager ou votre employeur vous demande de venir travailler alors que vous avez été réveillé à 3 h, 4 h, 5 h du matin et vous demande de venir à 9 h, juste. Il est en train de tuer son business parce que vous n'êtes pas efficace. Prenez vos heures de repos.
C'est aussi un risque pour l'employeur. Moi, j'ai connu une entreprise où les managers disaient non mais vraiment prends-les vraiment, on veut pas te voir au bureau. C'est-à-dire parce qu'après, s'il y a une responsabilité de l'employeur, si c'était un peu si je sais pas la personne tombe dans l'escalier, un truc qui a rien à voir, voilà, mais au bureau, on va dire après c'était, enfin ça pouvait causer des problèmes aussi légaux à l'employeur. Donc c'est aussi ça, c'est dans les deux sens, hein, clairement.
Bah, le plus classique, c'est l'accident de voiture sur le trajet.
Ouais, voilà, exactement. C'est un très bon exemple aussi.
Ben justement, on va parler des contraintes que l'astreinte peut poser sur la vie quotidienne.
Oui, je vais y aller. On l'a dit, hein, l'astreinte, c'est 24 heures sur 24. Généralement, c'est du jour sur 7. C'est le week-end. Enfin, après, chaque entreprise découpe comme elle veut, hein, mais on est d'astreinte très souvent, enfin, toute la journée et le week-end, les jours fériés également. Donc, ça a un impact sur la vie quotidienne. On parlait des fêtes, etc. Bah, forcément, aller en soirée, aller en repas chez de la famille ou autre, bah, c'est compliqué. Faire des activités en extérieur, moi, j'en fais beaucoup à partir du printemps, c'est impossible parce qu'il faut pouvoir réagir généralement contractuellement. Par exemple, on doit acquitter une alerte en un quart d'heure ou une demi-heure, enfin voilà, il y a des temps un peu pour réagir, et surtout il faut avoir une connexion internet et il faut aussi être à l'aise, hein, pour travailler, parce que si c'est vraiment un gros problème, et ben être à 200 km de chez soi dans la montagne sans avec une 4G défaillante, ça va poser problème. Donc, et c'est surtout qu'en plus, vu qu'on est payé, l'employeur s'attend aussi à ce qu'on réponde et qu'on soit pas voilà en train sur la plage, je sais pas, enfin voilà. Donc c'est un peu problématique et c'est beaucoup de contraintes. Donc moi, enfin l'astreinte, c'est malheureusement parfois des week-ends où j'ai envie de sortir faire des activités voilà qui nécessitent que je peux pas prendre mon ordinateur, et ben je peux pas, et c'est pareil pour des sorties avec des amis ou autres, et c'est donc ça a un impact. Et c'est vraiment à garder en tête parce que c'est important.
Ouais, ça
Ouais, j'appelle ça. Oh, pardon. Excuse-moi,
Vas-y, Erwan,
Christophe.
vas-y.
Ouais, je voulais dire, moi, mes potes, ils m'appelaient Clark Kent. Parce que ouais, il y avait vraiment ce pattern où des fois, je recevais une notif, et surtout au tout début de ma carrière, quand on n'avait pas encore de smartphone, etc. Donc, je recevais un SMS. Je me disais, oh putain, merde. Donc, je courais après chez moi pour faire le truc, quel que soit là où je me trouvais. Alors j'essaie de jamais être trop là, mais du coup ça va vraiment dans le sens que tu décris, parce que c'est, faut pas oublier, c'est des contraintes, parce que on call, quoi, il faut répondre présent.
Exactement. Et tu fais bien de le rappeler, Mathieu, c'est 24 heures sur 24 l'astreinte. Parce que même si vous êtes au bureau ou qu'il y a quelqu'un au bureau, si alors nous c'était le cas, hein, si le pupitre, vous savez, les fameux niveau 1 qui n'arrivaient pas à résoudre le problème, s'ils appelaient qu'ils n'arrivaient pas à joindre quelqu'un au bureau, eh ben ils appelaient l'astreinte, même si c'était 10 heures. Parce que, bah, je sais pas, quelqu'un était au café et tout, personne répondait au téléphone, et l'astreinte est appelée. Donc, pour le coup, quand vous êtes en astreinte, bah, prévoyez pas en effet de trucs, parce que ça ne sert à rien, ou alors des trucs très légers, prévoyez à vous coucher tôt aussi, prenez de l'avance dans votre sommeil. Nous, ce qu'on faisait, les seuls trucs que je faisais, c'était, je faisais du jeu de rôle chez moi, et j'étais jamais le compteur ou le maître du jeu, parce que c'était impossible sinon. Mais bon, au bout d'un moment, j'ai arrêté parce que ça devenait trop compliqué, on était trop appelés. Ce qui fait que je passais mes soirées seules quand j'étais d'astreinte. Alors moi, je voudrais vous parler de justement d'impact sur la vie sociale et la vie de couple. Du coup, quand vous êtes d'astreinte, vous pouvez pas sortir, ou alors vous prenez un très gros risque. Moi, c'est un risque que je prenais pas, mais ça peut avoir un impact sur votre vie de couple aussi, parce que à partir du moment où vous êtes en couple, que vous dormez avec quelqu'un et que votre téléphone il sonne toutes les nuits, et ben l'autre personne elle va peut-être au bout d'un moment avoir un souci. Donc faut aussi penser à ça, comment aménager la vie de couple, discuter avec la personne qui vous accompagne dans la vie pour voir si les astreintes vont pas être problématiques pour elle comme pour vous, parce que si cette personne elle aimerait bien sortir le week-end et que vous pouvez pas, ça peut poser des crispations, et ça pose des crispations, donc il faut discuter avec l'autre personne et voir si ça la gêne pas, hein. C'est, je sais pas vous si ça vous est arrivé, mais moi ça m'est arrivé.
Alors moi c'est marrant parce qu'en fait ma compagne est aussi admin 6 et aussi d'astreinte. Donc c'est voilà quoi, c'est il y a toujours quelqu'un qui est d'astreinte, j'ai l'impression. Et donc on se comprend assez bien là-dessus, mais c'est vrai que c'est assez compliqué parce que bah forcément les calendriers se suivent. Donc une semaine d'astreinte après ça peut être elle. Enfin bref, donc, c'est un peu compliqué, comme tu dis, ça peut réveiller, etc. On a une chambre dédiée au cas où, voilà, pour parce que des fois voilà, quand c'est compliqué, ça sert à rien de réveiller l'autre en effet.
Et eh ben si ça vous si René ou Erwan vous n'avez rien à dire là-dessus, on va passer au petit point suivant et c'est René qui va nous parler des frustrations.
Alors bah comme j'ai dit, moi j'ai toujours assez bien vécu l'astreinte, etc. Sauf à un moment. Et en fait moi ce qui me posait problème, mais après voilà, c'est vraiment le il y a eu un moment où on a pris justement une partie un petit peu plus applicative sur lesquelles on n'avait pas été super formé. Voilà, c'était le début. Et voilà, ne pas savoir quoi faire. Et quand le scope d'intervention est pas très clair, ou voilà, moi ça c'est vraiment les difficultés que j'ai eues. Autant sur le périmètre infrastructure, là où je connaissais, voilà, ça m'a jamais posé de problème. D'intervenir, d'être réveillé, et si je pouvais faire quelque chose, voilà, c'était pas un souci. Par contre, quand on est réveillé et qu'on se rend compte qu'on sait pas quoi faire ou c'est pas forcément à nous de le faire, voilà, ça c'est hyper frustrant. Même quand on est bonne patte, quand on est réveillé trois fois de suite pour un truc qui nous concerne pas, là, je pense que même les gens gentils finissent par des fois un peu se fâcher.
C'est pour ça que je disais allez vous coucher tôt, parce qu'à un moment donné on a besoin de sommeil. Ben merci. Est-ce que vous avez d'autres problèmes qui vous viennent là comme ça?
J'en ai un, c'est ça va vite. Moi ça m'est déjà arrivé de louper des alertes. Voilà, tout simplement. Des trucs tout bêtes, et ça fait partie un peu du stress. Maintenant, c'est peut-être j'ai pas peur d'être appelé, mais la peur de ne pas recevoir l'alerte, c'est quelque chose. Que j'ai eu à une époque, là ça va un peu mieux, mais toujours à checker mon téléphone, est-ce que je suis bien en mode sonnerie, enfin voilà, j'avais un peu une crainte à un moment à cause de ça, parce que des fois ça va vite de louper une alerte, et voilà, le téléphone qui on s'est pas rendu compte, il est en mode vibreur, ou il est posé dans un coin, dans une autre pièce, on l'a laissé traîner, mais une fois je passais de l'aspirateur, pourtant il était en mode sonnerie et tout, mais j'ai jamais entendu le téléphone, hein, voilà, ça arrive. Bon, finalement c'est pas grave du tout, parce que c'est prévu, il y a de l'escalation, au pire ça appelle quelqu'un d'autre, et on m'a jamais blâmé pour rater une alerte, hein, parce que ça arrive à tout le monde je pense, mais moi c'était un peu un problème que j'avais aussi, pour revenir sur le stress, c'était ça, c'était même la nuit, c'est-à-dire me réveiller, regarder le téléphone, ouais, je sais pas, la peur de manquer une alerte, quoi. C'était le truc, j'avais un peu un problème avec ça.
Je te confirme, je l'ai eu aussi. Je pense que on l'a presque tous eu.
Ouais, et la peur de pas se réveiller, je pense. Je pense qu'il y a ça aussi. De pas, d'avoir peur de pas entendre le truc. Et je crois qu'honnêtement, en fait, c'est une peur non fondée parce qu'en fait, moi je sais, par exemple, quand j'étais d'astreinte, le téléphone avait même pas besoin de sonner. Juste la lumière de l'écran qui s'allumait, c'est limite à me réveiller.
Ouais, alors justement, moi, ça me fait penser à quelque chose parce que moi aussi, j'avais ce stress-là et je me réveillais aussi. Et du coup, j'en avais parfois des insomnies. Et ne faites pas des astreintes trop longtemps. Moi, j'en ai fait pendant 4 ans. Au bout d'un moment, il faut quand même savoir lâcher l'astreinte parce que ça va vous conditionner, mais vraiment, à, comme dit Mathieu, à regarder le téléphone, à stresser et tout ça. Donc, faites des pauses pendant que vous gérez des astreintes, si vous voulez faire des astreintes longtemps, c'est peut-être votre envie, mais faites des pauses. Je sais pas, prenez un an sans astreintes, puis revenez-y. Je ne sais pas, mais faites attention parce que ça peut vous épuiser très fortement.
Après, il faut quand même dire que c'est, physiologiquement, c'est pas non plus super ouf de se faire réveiller, voilà, régulièrement.
C'est vrai, c'est vrai. Moi, j'ai vécu des astreintes extrêmement dures. C'est aussi pour ça que moi, ça m'a épuisé. J'avais fait des astreintes où pendant une semaine, je pouvais cumuler 20 heures d'intervention en astreinte. Donc, ça commençait quand même à faire beaucoup.
Ouais, et c'est pas normal pour moi. C'est-à-dire que l'astreinte, c'est pas fait non plus pour ça. C'est vrai que c'est un truc à garder en tête. Si vous recevez trop d'alertes, c'est aussi qu'il y a un problème qui n'est pas lié à vous ou c'est un problème, on va dire, à l'entreprise. C'est pas censé sonner en permanence et il faut monitorer ça aussi. Graffer le nombre d'alertes que les gens reçoivent, ça doit diminuer avec le temps, fiabiliser les services, etc. C'est des choses importantes. Et chaque alerte doit être traitée et doit avoir une réponse, c'est-à-dire pas laisser traîner des alertes parce que derrière, c'est des gens qui sont réveillés. Des fois, les gens qui ne sont pas d'astreinte n'ont pas conscience de ça, qu'une alerte qui traîne, ça rappelle. Voilà, donc il faut des procédures dans les entreprises pour escalader, traiter ces alertes rapidement pour pas que ça revienne, c'est vraiment très important.
Tout à fait, et comme tu dis, améliorer ça, c'est-à-dire que si on est réveillé régulièrement, il y a peut-être un souci, faut rentrer dans l'amélioration continue.
Oui, c'est pas un substitut au service informatique en fait.
Non, on est vraiment là pour remonter le service. Et en effet, il faut se poser la question de est-ce que l'alerte, elle est pertinente? On en revient toujours à ça. Eh bien, écoutez, je vous remercie. 1h25 déjà, il est temps de clôturer, je pense. Alors moi, je vais dire à notre cher auditeur 2 choses. La première, c'est de t'abonner au podcast ou à la chaîne YouTube. Et si tu veux être notifié des futures sorties, tu peux activer la cloche sur YouTube. La deuxième chose, si tu as apprécié cet épisode, tu peux nous rejoindre justement dans la communauté des compagnons du DevOps, où c'est un forum où tu peux discuter, venir nous raconter aussi tes astreintes ou pas, ou même nous parler de tes futures astreintes, je ne sais pas, ou discuter de plein d'autres trucs, parce que si tu cherches de l'aide aussi, il y a beaucoup de sujets qui demandent de l'aide, qui demandent de comment est-ce qu'on fait ça, comment est-ce que vous faites ça, et ben il y a des réponses. Justement, puisqu'on parle des compagnons, votre mot de la fin, c'est une question que je vais vous poser. Qu'est-ce que vous a apporté la communauté des compagnons du DevOps depuis que vous l'avez rejoint? Et on va commencer par Erwan.
Moi, je sais plus depuis combien de temps j'ai rejoint la communauté, mais en tout cas, ce que je trouve cool, c'est que j'ai découvert plein de gens que je ne connaissais pas et que je suis et qui alimentent très fortement mes recherches, ma façon de travailler et qui alimentent aussi les questions que je me pose sur le métier. Donc c'est cool. Moi, je suis plus en mode ninja. Je lis beaucoup ce que les gens postent. Je participe un petit peu moins. Mais du coup, je trouve que le succès, il est là-dessus, c'est que moi, j'ai appris plein de choses et je continue et je pense que ça continuera comme ça parce que ça alimentait de bon esprit et de plein d'infos intéressantes.
Tu es mute, Christophe.
Oui, excusez-moi, j'ai appuyé sur le bouton alors j'étais pas mute. Et toi, Mathieu, qu'est-ce que ça t'a apporté, les compagnons?
Je rejoins un peu Erwan, c'est beaucoup des rencontres déjà, beaucoup. sur le forum des compagnons d'Evos, mais aussi à l'extérieur, donc ça peut être sur les réseaux sociaux, ou même des gens que j'ai rencontrés, on va dire, physiquement aussi. Donc c'est super vraiment de voilà de rencontrer des gens avec de différents endroits, avec différents profils, différentes compétences aussi, différentes expériences, et de discuter un peu de tous ces sujets-là, que, parce qu'on est tous passionnés, je pense, discuter de nos métiers. Et c'est aussi beaucoup de, j'ai appris aussi également beaucoup de choses, que ça soit des nouveaux outils, des liens vers des tutos, des blogs, ou même pendant les discussions, on va dire, sur le forum, où les gens commentent, proposent des solutions à des choses, mettent des liens, voilà, vers l'extérieur, vers du contenu. Donc on apprend également beaucoup comme ça, en discutant de problématiques, sur, notamment sur le forum. Et donc c'est vraiment super.
Eh ben René, c'est à toi.
Eh ben pas mieux en fait, hein. Moi je suis venu sur le forum et dans les podcasts pour voilà, échanger, apprendre, voir d'autres pratiques, enfin voir comment les autres s'organisaient, etc. Et j'ai pas été déçu. Et puis voilà, je vais pas en dire plus.
Eh ben merci, donc tu l'auras compris, si tu n'es pas encore inscrit au forum des compagnons du DevOps, viens t'inscrire et viens discuter avec nous.
Merci d'avoir écouté Radio DevOps. N'oublie pas de noter l'épisode. Plus la note sera élevée et plus il sera mis en avant dans les applications. Tu peux aussi le partager, ça nous aidera à le diffuser et à rendre le mouvement plus visible. Si tu as envie de discuter du mouvement, alors rejoins-nous dans la communauté des compagnons du DevOps. À bientôt. La balado diffusion des compagnons du DevOps est produite par l'Hydra.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.